Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Nous sommes le mardi 2 mai 2023. On a un petit peu de soleil et d'éclaircies entre deux nuages dans le ciel Beaujolais et des températures qui montent aujourd'hui à 18 degrés. Dans notre émission, on va retrouver le coach pour une rubrique éducative. On va passer faire un tour en librairie aussi avec Bertrand Lamure. Mais avant ça, on va s'intéresser à nos invités du jour et on va parler ensemble du Brouy Festival organisé par Terre de Brouy. L'occasion de mettre en avant deux grands crus du Beaujolais, le Brouy et le Côte de Brouy. Pour nous en parler, on retrouve avec nous en studio Emmanuel Jambon, le président de Terre de Brouy, et Audrey Manac, responsable de communication. On parle de cet événement qui arrive tout bientôt, c'est pas ce week-end mais le prochain. Avant ça, on commence comme d'habitude notre émission en musique, on écoute La Chica avec le titre Drink. On est ensemble sur Calade, il est 12h14, merci d'être avec nous.
I wanna be drunk till tomorrow. Drink your memories, swallow my wish. I wanna be drunk, 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 drunk. I was down when I woke up. He was there. I could touch his face. I was feeling so close, his presence.
Be drunk.
C'était la Chica sur Calade avec un morceau intitulé Drink.
Ensemble sur Calade.
Allez, nos invités du jour qui nous ont rejoints en studio pour nous parler de Terre de Brouilly, c'est Emmanuel Jambon, le président de Terre des Brouillis, et Audrey Manac, responsable de communication. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par présenter un petit peu ce que c'est que Terre des Brouillis. C'est une association de vignerons.
Alors, Terre des Brouillis, c'est une association de vignerons un peu particulière puisque c'est la seule association qui rassemble deux crus, Brouilly et Côte de Brouilly.
Et l'objectif, du coup, c'est de mettre en avant ces crus, tout simplement.
Alors, l'objectif, c'est de mettre en avant ces crus, de les faire vivre, de pouvoir aussi garder l'appellation Brouilly et Côte de Brouilly, puisque l'appellation appartient à chaque vigneron.
D'accord. Et ça représente combien de vignerons, justement ?
Alors, nous
de...
sommes 303 adhérents à Brouilly, ouais, et Côte de Brouilly, à Terre des Brouilly. Donc tous maintenant sont intéressés par l'appellation, par le travail que l'on fait. Et ouais, d'ailleurs, je les remercie tous, puisqu'on a vraiment une super équipe maintenant. Et on voit vraiment dans le paysage tout ce développement du vignoble, ouais, avec les nouvelles haies de plantation, le côté... plus bio, plus proche de la terre, de la viticulture.
Et ça crée du collectif, le fait d'être en association ?
Ah bien sûr, ça crée du collectif. Et puis nous devons aussi créer nous-mêmes le collectif. Ouais. Parce qu'à Terre de Brouilly, nous avons aussi un bureau. Et ce bureau-là est réparti avec différentes commissions qui sont en charge de s'occuper de différentes, différentes destinations qu'on veut donner au Beaujolais. C'est-à-dire qu'on a le côté agroécologique, on a le côté économique, ouais, on a le côté... qu'est-ce que j'oublierais, Audrey ?
Et on a les lieux-dits.
On a les lieux-dits aussi.
En gamme, on a le Brouilly blanc.
Le Brouilly blanc ?
Oui, alors effectivement...
Alors pour moi, alors peut-être que j'y connais pas grand-chose.
Hein, enfin, voilà, ouais.
Il y a un projet éventuellement.
Alors en fait, Brouilly est engagé alors d'aujourd'hui avec ce qu'on appelle la montée en gamme et l'arrivée des premiers crus.
Ouais.
L'arrivée des premiers crus, c'est un gros travail d'historique, de savoir-faire de chaque lieu-dit pour connaître peut-être quels lieux-dits dont nous ignorons encore seront les futurs candidats. À une future obtention d'un premier cru.
Alors, c'est quoi un premier cru ?
Un premier cru, c'est un endroit particulier, c'est un vin issu de cet endroit particulier qui a peut-être pas forcément le meilleur, mais qui a une histoire, qui a un caractère particulier.
Donc, au sein d'un cru, par exemple, Brouilly, c'est un cru, il y a des premiers crus.
Alors d'aujourd'hui, il n'y a pas de premier cru encore.
À Brouilly, il n'y en a pas, mais dans d'autres crus, ça existe ?
Bien sûr, dans d'autres crus, alors pas dans le Beaujolais.
Ouais.
Puisque c'est quelque chose qui est sur lequel on travaille, mais par contre vous allez en Bourgogne, vous avez à Beaune premier cru, Pomard premier cru, voire grand cru.
D'accord.
Puisque c'est toujours une échelle en triangle, l'appellation est en bas,
ouais,
et vous avez le premier cru et tout en haut le grand cru.
Le grand cru, d'accord. Et donc le but c'est de créer, de découvrir des premiers crus.
Voilà, c'est en fait c'est de créer ce qu'on appelle une montée en gamme, c'est-à-dire que le Beaujolais maintenant redore son blason depuis quelques années et ouais, est incontournable dans le monde du vin,
ouais,
ce qui est vraiment super bien. Et notamment Brouilly, Côte de Brouilly aussi, on l'entend parler de partout. Et donc grâce à tout ça et toutes les communications qu'on a fait, on a réussi à propulser les appellations du Beaujolais à un certain niveau de gamme,
ouais,
qui est plus celui qu'on connaissait avant, petit vin, moyen. Maintenant, on est devenu des grands vins.
Mmh.
Et on est fiers de nos grands vins.
Ouais.
Et tous les vignerons en sont fiers.
D'accord. Et donc il y a cette montée de gamme qui se prépare. Et
voilà.
Il faut faire quoi pour monter en gamme ? Ça se passe comment ? C'est quoi les étapes ?
Alors, les étapes, elles ont déjà été sur la recherche de différents lieux-dits, sur les historiques.
D'accord.
Qu'il y a eu. Après, nous avons fait une étude de pratique culturelle. Nous avons attendu le retour de cette étude Et après, nous avons mis en place, après, un cahier des charges pour ces premiers crus. Nous avons voté ce cahier des charges en assemblée pour que tout le monde soit parti. Mmh. Et surtout que c'est un cahier des charges qui est basé sur les pratiques usuelles, culturelles. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester simple et quand même pas trop compliqué au départ.
D'accord.
Parce que le but, c'est d'attirer le plus de monde possible avec nous. Il ne faut pas oublier que Brouilly, Côte de Brouilly, c'est une association et que plus on aura de monde qui rentreront
investis
dans l'association, plus ça sera facile et plus ça ira vite.
D'accord. Et j'ai vu sur votre site, il y a 7 lieux-dits qui ont été imaginés à Brouilly.
Alors, pour le moment, non, il y en aura. On ne peut vraiment pas savoir combien il y en aura réellement.
Ok.
Puisque c'est un pourcentage de la surface.
D'accord.
Donc, pour le moment, on a nos petites idées, mais ça bouge tout le temps, parce que l'historique, maintenant, les gens commencent à travailler sur l'historique, nous ramènent de nouvelles informations, donc ça redonne des points dans chaque lieu-dit. Donc, c'est là qu'on voit que notre investissement a été hyper important.
D'accord. Il y a de la motivation, ouais, de la motivation pour les vignerons à obtenir ce...
Mais oui, parce qu'il y aura une motivation de revalorisation.
Ouais,
et il ne faut pas oublier que ces premiers crus, c'est une locomotive pour tout le monde. Mmh. Parce que tout le monde ne sera pas en premier cru, mais ça sera une vraie locomotive pour ceux qui seront derrière.
Ouais. Alors le Brouilly, moi je l'identifie, enfin tout le monde l'identifie bien, c'est facile, c'est le Mont Brouilly, le cru, et le Côte de Brouilly, c'est tout ce qui est autour, ça présente alors, quoi comme...
voilà, c'est en fait...
Ou est-ce que je simplifie trop?
Non, c'est vrai, en fait, Brouilly, Côte de Brouilly, c'est déjà une même association parce que c'était le même nom de base, et Brouilly, Côte de Brouilly, c'est quelque chose de très particulier puisqu'on a donc la Côte de Brouilly qui représente Côte de Brouilly, soit 300 hectares, 320, quelque chose comme ça, et Brouilly qui reste autour de la côte.
Ah, c'est le contraire de ce que j'ai dit.
Voilà. D'accord. Ouais, la côte de Brouilly, c'est la montée, et le Brouilly, c'est le tour.
D'accord.
Mais quand on parle avec les vignerons, le point central, c'est toujours la chapelle.
Ouais.
Et la chapelle de Brouilly, c'est un peu comme la tour Eiffel à Paris. C'est-à-dire que tout le monde qui soit en Brouilly ou en côte se repère par rapport à la chapelle. Ouais. C'est notre vraie image
de
l'association.
Je suis au nord de la chapelle, voilà. Très bien. Et donc, vous avez dit, il y a plusieurs centaines de vignerons.
Ah, il y en a 300, au moins. Je crois que c'est 303.
303 vignerons, ouais.
Il me semble. Puisqu'on avait. On a plusieurs opérations qui sont prévues dans l'année, je pense. Notamment, on avait mis en place l'histoire de faire pourquoi pas 303 arbres, ouais. 303 vignerons, 303 arbres, ouais. Pour mutualiser, pour. Rendre visible le cru Brouilly et que chacun se sente investi.
Mmh. Ouais.
Ouais, parce que en fait, l'association, elle est là pour travailler la notoriété des crus Brouilly et Côte de Brouilly. Donc nous, on est là pour vraiment travailler l'image, la notoriété, la montée en gamme. Mais tout ça, on le fait pour un collectif. Et le collectif, il faut le fédérer.
Ouais.
Donc il faut non seulement qu'on travaille pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur. Et donc on est aussi des actions qui soient spécifiques pour les vignerons. Et qui se sentent reconnus sur leur appellation.
Au mois de février, j'ai entendu parler de haies qui ont été installées, par exemple. C'est ce genre d'action qui...
Oui, ça, c'est ce genre d'action, par exemple, qui fédère. C'est la commission... on a différentes commissions, comme le disait Emmanuel tout à l'heure dans l'association. C'est la commission environnement qui a l'initiative, en fait, de cette action. Donc, c'est de planter des haies avec les élèves de l'école de Audenas. Donc ça a été de la petite section maternelle jusqu'au CM2, donc c'était super chouette, très jeune. Les enfants ont adoré en fait de participer justement à cette plantation. Les vignerons aussi, ça a été un vrai échange. Et du coup, c'est vrai que les vignerons se sont fédérés autour de cette action et ça a donné envie de poursuivre en fait l'action chaque année dans un des villages de Brouilly aux Côtes de Brouilly, sachant que l'appellation regroupe 6 villages.
6 villages.
Voilà. Mmh. Ouais.
Les haies, c'est quoi l'intérêt? C'est protéger, je sais pas, du vent, la biodiversité,
tout ça.
Ouais.
Tout ça.
C'est, c'est ramener réellement de la biodiversité. Ouais. Et peut-être aussi peut-être des microclimats. Mmh. Ce qui, plus on en enlève, moins on a de microclimats.
Ouais.
D'accord. Et oui, et quand il y a des haies, ça crée plus de particularités.
Ça crée un certain microclimat à l'endroit où il y a les haies.
Mmh. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment intéressant.
Oui, c'est intéressant. Les haies, si on prend l'exemple des chauves-souris, par exemple, une chauve-souris a besoin d'aller d'une haie à une autre. Et c'est important d'avoir des chauves-souris dans son environnement.
Et puis, l'important, c'est aussi les abeilles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous faut des haies avec des fleurs pour pouvoir polliniser. Parce que si on ne pollinise pas, on n'a pas de fruits.
Super. Et donc ça, sensibiliser les plus jeunes à ce genre de projet, c'est vrai que c'est...
Voilà, sensibiliser pour attirer aussi du monde de l'extérieur. Pourquoi pas attirer de nouveaux vignerons? Pourquoi pas faire venir du monde? Parce que nous sommes à la recherche de bras et de vignerons, donc ça peut peut-être créer des émules parmi beaucoup de monde, et pourquoi pas créer une envie de reprendre un domaine, puisqu'il y en a à reprendre.
C'est vrai, il y a des domaines qui peuvent être repris.
Il y en a et qui sont accessibles en ce moment, donc il n'y a pas de souci.
Pour créer de l'activité, il y a bien sûr le festival que vous organisez, le Bruit Festival, qui aura lieu le 13 mai. En quelques mots, si on devait résumer cette journée, après on va rentrer dans le détail du programme, mais
Je vais la résumer en quelques mots, et puis après Audrey, qui s'est beaucoup investie dedans, vous donnera plus le détail du programme de la journée. C'est le Festival des Bruits. Ça a été un projet qui a été inculqué l'année dernière.
Ouais.
Et donc c'est la deuxième édition qu'on fait cette année au Château des Rabatis, puisque c'est un lieu central de Bruits.
À Saint-Lagé.
Et le but, en fait, c'est de fédérer tout ce que l'on fait en une année, en un jour.
D'accord.
C'est-à-dire que toutes nos associations, tout ce que l'on fait dans une année, que ça soit visible ce jour-là pour tout le monde.
D'accord.
Donc c'est vraiment une grosse journée, on mise beaucoup dessus et sur le monde, on espère avoir beaucoup de monde aussi, parce que c'était vraiment une grosse, grosse journée, et cette année on a vraiment mis le paquet. Donc c'est pour ça que Audrey a prévu un super programme avec un concours des vins.
Ouais, évidemment.
Ouvert à tous les producteurs. Donc ça, c'est aussi important. Tous les producteurs peuvent mettre et doivent mettre un échantillon.
Et ce qui est rigolo, c'est concours des vins pro le matin, professionnel, et puis amateur l'après-midi, c'est ça ?
Voilà.
C'est ça.
Bon. En fait, c'est un tout petit clin d'œil à la consommation. C'est-à-dire que c'est le consommateur qui consomme. Donc pour nous, Bruit, c'était peut-être intéressant que ce soit le consommateur qui juge, en fait, celui qu'il aime.
Ouais. On va faire le tour du programme. Du coup, comment ça commence cette journée? Ça commence tôt, il me semble.
Ça commence tôt, ça commence à 9h pour les lèvres tôt. On a différents temps forts dans la journée, et on a une visée de différents publics. En fait, il y en a pour tout le monde, en fait, pour les amateurs de vin, de randonnée, de nature, de musique, de gastronomie. On peut y trouver son bonheur. En matinée, donc à partir de 9h, on a la balade de la biodiversité. Là, c'est plutôt un public familial. On a des navettes qui partent tous les quarts d'heure pour amener les participants sur le Mont Brouilly. Et ils ont une balade guidée avec un vigneron et différents stands, géoparc, chasse et pêche, etc. Une chasse au trésor, des jeux, voilà, avec possibilité de pique-niquer ensuite au château des Rabatis. Et en parallèle, dans cette matinée-là, on a le concours des pros à l'orangerie du château, où on accueille entre 60 et 80 professionnels qui vont justement sélectionner 5 cuvées qui sera ensuite dégustées par le grand public.
Ouais.
Et le grand public, en fin d'après-midi, désignera justement les vainqueurs du concours.
D'accord, donc le jury pro, il sélectionne les vins que le jury...
Que le grand public choisira. Voilà. Donc c'est ce que tu disais, Emmanuel, c'est que c'est les pros qui sélectionnent, et c'est le grand public qui
a le dernier mot.
Qui a le dernier mot. Et puis donc, dans l'après-midi, on a le Bruit Market. On a fait une belle sélection de créateurs, de talents du Beaujolais. on a une douzaine d'exposants et à partir de 16h, animation musicale, DJ, concert, planche apéritif, un énorme bar à vin, un superbe chapiteau de guirlandes guinguettes dans le parc du château, des animations pour les enfants, des animateurs et des jeux. Voilà, on sera dans une ambiance très très festive, guinguette et conviviale.
Avec le château qui est déjà magnifique.
C'est ça qui est top, autour, en fait. Ouais, c'est le lieu parle de lui-même. Donc on a quand même investi sur la partie scénographie. On scénographie avec les différents espaces, le mobilier, etc. Mais le lieu vraiment
le
parle de lui-même.
Château Dramatis.
Il est tellement beau qu'on le met en lumière. On le met en lumière, en fait. Ouais. Pareil, on travaille sur l'éclairage sur le château. Et on est très 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 content, en fait, de faire l'événement là cette année sur ce lieu.
Et donc journée festive, effectivement, c'est ouvert à tous. Pour toute la journée, il se passe des choses, on peut venir en famille.
Tout public, toute la journée, tout public, petit et grand, consommateur ou pas, amateur ou pas de vin. Vraiment, c'est on cible le grand public.
C'est que le vin est au centre de l'événement, mais il y a la terre aussi, la biodiversité qui est mise en avant.
Qui est mise en avant,
tout au long de la journée. Où est-ce qu'on retrouve toutes ces petites infos si on veut venir et
On les retrouve sur le site Terre des Bruits, terredesbruits.com. Vous avez toutes les informations. Sur certains temps de la journée, il faut s'inscrire. Par exemple, sur la dégustation au grand public, c'est sur inscription. On a déjà pas mal d'inscrits. On est content, en fait, des premières retombées. Sur la balade de la biodiversité, c'est pareil. Comme on prévoit des départs tous les 10-15 minutes, on demande aux gens de s'inscrire en amont. Et on propose aussi des pique-niques, si les gens le souhaitent. Voilà.
Très bien.
Sur le midi.
Et donc, il faut s'inscrire sur votre site internet.
Sur notre site internet.
Terredesbruits.com.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à venir en nombre.
Oui.
Pour participer, parce que plus il y a de monde, plus on sera content et puis plus on est content d'avoir organisé cette journée.
C'est vraiment un collectif qui parle et qui monte son événement, mais c'est quelque chose de très local. Enfin, on a vraiment envie que ce soit l'événement.
L'événement des vignerons.
Voilà.
On fête le vin en novembre, historiquement, dans le Beaujolais, parce qu'il y a une fête un peu plus estivale. Ça peut être aussi un bon rendez-vous à se donner.
Oui, c'est un bon rendez-vous à se donner en Beaujolais. Hein, le troisième jeudi. C'est le rendez-vous quand même de l'année, mais c'est bien d'en ajouter des nouveaux.
Et puis c'est pas pour le même style de vin.
Voilà, ouais.
C'est pas la même chose.
Nous, on propose plutôt de mettre en avant des crus du Beaujolais et notre savoir-faire. Et puis en novembre, c'est plutôt le côté festif. C'est aussi un savoir-faire, mais c'est une fête qui est totalement différente. C'est pas destiné au même public.
Ouais.
C'est pas la même chose, effectivement. Il se passe des choses cet été dans les Terres du Bruit. Je crois qu'il y a quelques rendez-vous aussi qui sont prévus.
On a le Tour de France qui passe
le 13 juillet à Bruit.
D'accord. Il faudra les accueillir, les cyclistes.
Voilà.
Alors, l'arrivée est quand même
à Belleville.
Incroyable. Belleville en Beaujolais, puisque rien que le mot veut tout dire. Donc c'est un super événement où on va faire un peu de décoration, on va accueillir le Tour de France avec plaisir et c'est quand même la chaîne la plus regardée en France et peut-être même en Europe. Donc c'est pour ça qu'on est très très content de l'avoir, ça va être un coup de pub extraordinaire.
Parfait. Bon, en tout cas, le prochain rendez-vous, celui qui arrive le plus vite, c'est ce samedi 13 mai au château Dramatis à Saint-Lager pour le Bruit Festival. On retrouve toutes les infos nécessaires
sur le site
terredesbruits.com. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler.
Merci à vous.
Nous.
Merci pour l'accueil.
Et puis à très bientôt sur Calade.
Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt au 13 mai.
Ensemble sur Calade.
Allez, un peu de musique tout de suite. On écoute The Allergies avec Never Gonna Let Go sur Calade. Olivier Largis sur Calade avec Never Gonna Let Go.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous m'acquittiez, mes loulous, vous serez tous capables de faire la même chose.
Ah oui, il est l'heure de retrouver le coach. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
Vous allez bien en forme?
Eh ben, ça va bien.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? C'est fini.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que les enfants ont en commun avec les chiens.
Ah bon, d'accord.
Alors, je sais que commencer comme ça, c'est pas terrible. On va croire que je vais dénigrer les enfants ou les chiens. C'est pas du tout le cas, mais je me suis rendu compte, figure-toi, gamin, que les enfants ont en commun avec les chiens, c'est que lorsque tu les emmènes se balader dans la nature, ils finissent toujours par ramasser un bâton à un moment. Ouais. Et ils te le rapportent tout fier. Et ensuite, il faut bagarrer pour qu'ils acceptent de lâcher le bâton pour rentrer dans la voiture.
C'est
et
vrai.
Ça, c'est valable aussi bien avec les enfants qu'avec les chiens.
Ouais, et parfois, certains adultes, moi, quand je me balade et que je trouve un chouette bâton, je le ramasse avec plaisir.
Parce que quand il y a des adultes qui sont restés des gamins, n'est-ce pas?
C'est vrai.
En tout cas, ils sont trop mignons. T'as toujours l'impression qu'ils ont trouvé un trésor et ils trimballent leur bâton pendant toute la balade. Et objectivement, le bâton les encombre plus qu'autre chose, mais ils ne le laisseraient de côté pour rien au monde. Alors, il faut quand même reconnaître que dans ce point commun, la passion des chiens pour les bâtons est bien moins imaginative que celle des enfants. Elle est plus limitée. Mmh. Les chiens, ils portent le bâton et à la rigueur, quand tu le balances, ils vont chercher et le rapportent. Les enfants, c'est autre chose. Un bâton, même à moitié pourri et vermoulu, est toujours la clé de grandes aventures. L'imagination des bambins est sans limite. Tantôt une épée, tantôt une canne ou une baguette de sorcier. C'est Dumbledore contre Gandalf dans la forêt. Avec un bout de ficelle, les voilà partis à la pêche aux poissons des bois. Les plus hardis fabriquent un arc ou une flèche tahitienne qui peut parfois partir très très loin, presque à 100 mètres.
Ouais.
Et pour les plus créatifs, les bouts de bois deviendront une œuvre de land art éphémère ou un mobile à accrocher dans les arbres, voire un mandala naturel. En tout cas, il a été démontré que les enfants ont besoin de se retrouver régulièrement dans la nature, dans la forêt. Cela a des effets bénéfiques sur leur bien-être, leur imagination, leur connaissance du vivant, leur sens de l'observation et leur sens de l'orientation. Le temps passé dans la nature et en forêt est très bon pour leur développement physique, vous vous en doutez. Mais au-delà du bienfait apporté par le contact avec la nature, les jeux d'imagination avec des bouts de bois et autres bâtons, apporte un support de créativité et d'imagination infinie. C'est un moment de liberté qui permet d'expérimenter des choses, de tester la solidité d'une construction, de chercher dans son environnement la solution à un problème posé par le projet d'enfant. Les mômes vont développer un savoir, par exemple sur les différentes essences d'arbres présentes en forêt et sur les propriétés de leurs bâtons respectifs. La flexibilité du coudrier et du noisetier, la branche de sureau dont on peut vider le cœur facilement pour ne citer que ces deux exemples. Et là, gamin, pour que l'expérience soit complète, nous devons aborder une question essentielle pour tout enfant qui vit ses aventures en forêt. À partir de quel âge peut-on le laisser utiliser un couteau pour ses bricolages et réalisations? Tu dirais quoi, gamin? À quel âge tu laisserais un bambin avec un couteau, toi?
Je sais pas, j'allais dire 10 ans, mais après je... J'en ai pas...
C'est pas mal, disons. Un couteau ou autre chose, hein. Je sais qu'il y en a qui se baladent tout le temps avec une espèce de pince multifonction qui ressemble à un couteau suisse.
Ouais.
Mais la vraie question, c'est à partir de quel âge on peut lui faire suffisamment confiance pour prendre le risque d'utiliser un objet dangereux.
Ouais.
Et dans certaines familles, il est de tradition d'offrir un couteau suisse aux enfants, par exemple, ou à l'opinel.
Ouais.
Dans certaines familles, il est difficile d'imaginer laisser son enfant utiliser un objet dangereux, tel le fameux couteau suisse pour jouer. Pourtant, cela favorise aussi son développement et sa confiance. Si vous lui faites confiance pour utiliser un outil dangereux, alors il fera attention. D'autant plus si vous avez pris le temps avec lui de passer en revue les conditions d'utilisation avec le maximum de sécurité. Bien entendu, nous ne pouvons pas prévenir à 100% le risque de coupure ou de blessure. Mais nous pouvons anticiper avec lui comment réagir en cas de coupure et de blessure. Tu vois le potentiel du truc, gamin?
Eh ben...
En plus de faire une enfant débrouillarde, par exemple, bah, tu peux mettre au travail tout un tas de sujets qui seront concrets pour l'amour. Parce qu'on n'offre pas des couteaux aux garçons, on offre aussi aux filles, il n'y a pas de raison.
Oui.
Vous l'avez compris, hein, mais le plus beau cadeau que l'on peut faire à ses enfants, alors c'est pas forcément un couteau, ça c'est chaque parent qui décide, mais c'est de les accompagner en forêt, pour leur permettre de vivre des aventures intenses et passionnantes, et pour leur permettre de développer leur autonomie. Mmh. Pour terminer, je vais vous conseiller un bouquin très bien fait, qui a déjà une dizaine d'années derrière lui. Ce livre, il s'appelle « 1000 choses à faire avec un bout de bois ». Il est publié chez Gallimard Jeunesse et il est sans doute disponible à la commande chez votre libraire préféré qui, si je ne me dépêche pas, va râler parce que j'ai pris trop de temps. En tout cas, 1000 choses à faire avec un bout de bois, c'est un livre créatif avec plein de choses à réaliser avec des bâtons, des bouts de bois, après une bonne balade en forêt ou pendant la balade en forêt. Et c'est vraiment un livre génial, c'est presque un livre magique. Voilà. Donc pour résumer, aller en forêt pour jouer avec des bâtons, c'est génial. Par contre, c'est beaucoup plus génial que d'aller jouer en forêt avec des petits cailloux parce que ça a tendance un peu à rendre les gamins suspicieux, comme le petit pousset.
Oui, c'est vrai, ça peut les inquiéter. Merci beaucoup, coach.
Allez, salut mes louloutes, salut mon gamin, à bientôt.
À très bientôt, ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, on continue notre émission en musique. On écoute un certain Claude. Voici Aide-moi un peu.
J'ai ta salive dans la bouche, tes ongles qui traversent ma paume. Ça fait tout drôle quand on se débauche. La vie c'est sale, c'est beau, c'est moche. Moi j'suis un bon à rien, j'sais pas faire grand chose de mes mains, mais je pourrais les joindre et puis te prier. Une langue bavarde agenouillée. Et aide-moi un peu à te rendre. Vrombissent sous la fenêtre, vomissent leur grisaille sur les carreaux. Mais moi je veux plus sentir les moteurs, sauf celui qui s'emballe sous ta peau. On se rapproche à chaque secousse, un double nœud qui se resserre. Pour pitié, dis-moi comment faire. Avant que la passion ne s'émousse, et aide-moi un peu, aide-moi un peu, ah, ah. Aide-moi à te rendre.
Claude, sur quel aide, c'est le nom de cet artiste. Le morceau s'appelait Aide-moi un peu.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Et oui, il est le temps de parler littérature avec Bertrand Lamure. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui en ce temps printanier ?
Alors, rien que la question est quand même un peu douteux. Tu te doutes bien que cette semaine, il y a un sujet premier sur lequel tout le monde va parler. Je pense que tu le sais mieux que moi.
Ouais, je sais. Non, je sais pas. Mais le 1er mai.
Non, mais ça s'est passé.
C'est passé, c'est derrière nous.
Voilà. Mais non, c'est le couronnement de Charles III d'Angleterre.
Mais oui.
C'est là que ça va pas, Mathieu. C'est là que ça va pas.
Je te connais pas assez, Bertrand. Je l'ai pas vu.
Et ouais. Donc, bon, déjà, tu as compris que la reine est morte. Le monde entier commence difficilement à s'en remettre, mais s'en remet. Et là, il y a le gamin qui arrive. Voilà. Bon, un gamin qui a quelques années déjà, mais voilà. Et du coup, c'est samedi. Et alors, je me suis dit, c'était cette semaine, de quoi on parle, évidemment. Nous parlons Angleterre, littérature anglaise. Alors, Bon, je vais pas tout de suite quand même poser des questions qui fâchent. Mais alors, Mathieu, l'auteur anglais qui te plaît plus, qui est le plus célèbre,
c'est J.K. Rowling. C'est très facile.
Ah ouais, ok. Je l'avais pas vu arriver.
C'est 10 années de ma vie.
Il va nous sortir Shakespeare. Il va ça. Ah non, J.K. D'accord. Ok, mais t'as pas tort. Ma passion pour Harry Potter est limitée. depuis 25 ans que tous les mois il y a une nouveauté Harry Potter, donc je suis à oui, deux doigts du burn-out là-dessus.
Oui, bon, moi je me suis arrêté au premier livre, l'histoire d'Harry Potter, et puis c'était fini après.
Mais c'est vrai que J.K. Rowling est un peu une sorte de reine d'Angleterre, ou en tout cas son compte en banque doit ressembler à celui de la reine d'Angleterre. Ça c'est une évidence, voilà. Donc cette semaine, pour un petit peu célébrer ce Royal Event, quelques auteurs anglais, en fait, qui ne sont pas forcément dans l'actualité chaude du moment, puisque tu as bien compris, il n'y a qu'une actualité, c'est le couronnement. Je voulais évoquer quelques-uns. Alors, pour rester très English, très l'Angleterre, alors, qu'on déteste ou qu'on aime bien, hein, parce qu'il peut y avoir des personnes qui détestent les Anglais, hein, ça existe.
C'est vrai.
C'était les livres d'Elizabeth Jane Howard, alors qui est décédée il y a déjà quand même quelques décennies, pardon. Et qui avait fait la saga des Cazalènes. Alors j'en avais déjà peut-être un peu parlé, il y a 5 tomes, et alors pour ceux qui ont peut-être vu cette fameuse série qui s'appelait Downton Abbey, où c'était vieille famille anglaise, très 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 aristo, très 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 grand château, avec beaucoup 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 de domestiques, mais c'était so English. Et donc dans la saga des Cazalets, c'est un petit peu ça. Alors ils sont un petit peu plus modernes, mais c'est des maisons de partout, des enfants de partout, des domestiques partout. Voilà. Donc dans cette anglaise, évidemment très égalitaire, évidemment très riche, qui a pas vraiment conscience que effectivement il y a des, comment on appelle ça déjà, des pauvres.
Ah mon Dieu.
C'est le rêve anglais, hein, mais il faut pas dépasser certaines limites. Mais c'est très agréable à lire en mode. Alors là, comme nous sommes au mois de mai. Voilà, moi je dirais une petite chaise longue avec quand même un petit plaid, sous un arbre. Et puis il y a toujours quelqu'un quand même, quand on sonne une petite cloche, qui apporte une orangeade, une citronnade. Mmh. Voilà, je le vois comme ça la lecture. Alors tout le monde n'a pas quelqu'un qui répond à une cloche, mais tentez. Conjoint, une conjointe, parfois ça marche. Voilà. Donc ça c'était l'été anglais avec la saga des Cazalets. C'est un régal de vacances, on va dire. Alors après, un peu plus sérieux quand même. Si on reste sur des auteurs que moi j'aime beaucoup, il y en a un que j'affectionne particulièrement qui est Julian Barnes. Mmh. Julian Barnes, c'est un Anglais, évidemment. Il a écrit 16 romans de mémoire. Il en avait fait un qui était très très beau, qui était l'homme rouge, sur une sorte de grand personnage parisien de la fin du 19e siècle. Et comme les Anglais parfois savent le faire, avait réussi à mieux décrire presque cette société française de la fin du 19e que beaucoup d'auteurs français. Et là, il a publié récemment un titre qui s'appelle Elizabeth Finch. Mmh. Et Elizabeth Finch, c'est une histoire d'amour entre une femme qui a une cinquantaine, un petit peu avancée, et qui est une enseignante. Et un de ses étudiants, mais qui n'est pas un étudiant de 18 ans, mais qui a déjà une trentaine d'années, comédien, et il y a une histoire d'amour qui se met en place, qui se développe sur fond de sentiments très anglais, c'est-à-dire dans la retenue, etc., sur fond d'admiration. C'est surtout une très très belle écriture, avec de très très belles références littéraires, historiques, et c'est un vrai régal, Elizabeth Finch. Et puis, pour ceux qui avaient bien aimé un titre qui s'appelait Miniaturiste, Où on était plongé dans la Hollande du XVIIe siècle. Donc cette Hollande très riche hein, du début du XVIIe siècle. Jessie Burton, elle est anglaise, bien sûr, et alors elle s'intéresse beaucoup aux romans historiques, et elle avait écrit donc ce titre miniaturiste qui était vraiment de toute beauté. Et là, elle revient, alors c'est un peu la suite, mais ça peut se lire séparément, elle revient avec La Maison Dorée, chez Gallimard, et bah pareil, on suit une jeune fille qui est majeure, qui a 18 ans, et qu'on va suivre dans ce mystérieux environnement donc de cette Hollande du début du 17e, sachant que miniaturiste était en fait un roman autour d'un homme qui, quand il s'est marié, avait offert à sa femme la maison, la magnifique maison dans laquelle elle allait habiter, avec plein, il refaisait sous forme de maquette cette maison, et avec plein de petites ouvertures, plein de petits détails qui étaient censés évoquer sa vie, son passé, etc. C'était fascinant. La Maison Dorée de Jessie Burton. Et puisqu'on est en Angleterre, on ne peut pas passer à côté de Jonathan Coe. Jonathan Coe, c'est le grand auteur anglais de cette Angleterre contemporaine. Je pense que c'est à peu près le seul à être capable de capter comme ça, on va dire, l'humeur anglaise, le style anglais. Mmh. Et son dernier, c'est Le Royaume des Unis. On suit une famille de l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à, pour faire simple, Boris Johnson. Et à travers cette famille, on va avoir sept temps forts de l'Angleterre et évidemment sept temps forts des Anglais, à commencer par le couronnement de qui, je te le donne en mille,
d'Elisabeth
II.
Et oui.
Ah bon, bah c'est bien, il y en a qui suivent, c'est parfait. et on va les suivre comme ça à travers toute une série d'événements, que ce soit Coupe du Monde de foot, etc. Et on suit à la fois l'évolution de l'Angleterre, l'évolution des mentalités, cette fascination quand même, chose un peu folle, pour la famille royale. Ils sont fous, ces Anglais. Mais c'est aussi pour ça qu'on les trouve fous, mais qu'on les adore. Et c'est très, très bien fait. Alors, je sais que beaucoup d'amis anglais l'ont lu et se sont complètement retrouvés. Parce qu'en fait, en anglais, le titre est Bourneville. Et Bourneville, c'est une petite ville à côté de Birmingham. Et du coup, beaucoup se sont retrouvés dans cette Angleterre d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et pour finir, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas finir cette chronique sans, évidemment, une biographie de Charles III d'Angleterre.
Ah
parce
oui.
que oui, mais oui, mais non, mais oui, Mathieu. Samedi, comme toute personne sensée qui se respecte, tu seras devant. Alors je ne sais pas si c'est BFM TV qui va faire ça. J'ai un peu peur que Radio Calade ne fasse rien dessus. J'en suis
on n'a pas prévu. On va faire une conférence, une réunion de presse pour savoir de quoi on parle.
Ça serait bien. Voilà. Donc l'historien qui est aussi avant tout journaliste, Michel Faure, est un des premiers à faire une biographie sur Charles III, roi d'Angleterre à l'archipel. Il faut bien voir que cet homme qui a 73 ans, c'est quand même juste 50 ans que le pauvre Viquet, il attend d'être roi d'Angleterre. Alors c'est pas qu'il voulait tuer sa mère, mais bon, faut dire qu'elle a un peu duré. Hein. Et ça y est, il y est, ce jeune roi qui arrive comme ça, tout fringant, avec la reine à ses côtés, Camilla. Donc, c'est pas inintéressant, hein, je reconnais. Alors,
il y a un paquet de sur nos fesses, non?
Alors pas du tout. C'est un homme exemplaire.
Ouais.
Je crois qu'on ne s'est pas compris en fait, Mathieu. Cet homme est exemplaire, il a eu une vie exemplaire et il arrive un petit peu comme... Alors évidemment, il est choisi par Dieu, donc on ose à peine, vraiment...
Je ne sais pas ce qu'il
m'a pris. Ouais, non, mais voilà, on coupera en montage. Hein. Et donc, mais c'est intéressant. Alors évidemment, c'est sûr qu'il a dû faire un certain nombre de conneries, mais bon... On regardera ça, avec un peu de chance, on achètera quand même Paris Match pour avoir les photos sensationnelles. En même temps, j'ai envie de dire qu'on est bien en France, hein, avec un président qu'on peut changer régulièrement.
Oui, ben, ça fera
mais voilà, mais en même temps, ben, c'est vrai que c'est toujours marrant de voir
cette monarchie
quand même qui existe quand même depuis combien de temps, Mathieu?
J'en ai aucune idée.
Eh ben oui, depuis plus de 1000 ans avec William the Conqueror, Guillaume le Conquérant. Hein, bon. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de respect à avoir avec une monarchie qui dure depuis 1000 ans.
C'est vrai.
On est bien d'accord que s'ils veulent rendre les bijoux de la couronne, ils peuvent. S'ils veulent rendre Buckingham à la population, ils peuvent. Et s'ils veulent partir en maison de retraite, ils peuvent aussi. Mais jusqu'à présent, ils sont bien marrants.
Oui, bon, ça occupe.
Je crois que samedi, je regarderai, j'aurai un œil sur je ne sais pas quelle radio ou quelle télé pour regarder un petit peu ce qui se passe.
Parfait.
Au cas où.
On sait ce que vous faites ce week-end. Merci beaucoup, Bertrand. À très bientôt.
Eh ben, enjoy your week.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
YouTube.
Ensemble sur Calade.